konnichiwa, Tokyo kara konbawa, vous Marseille, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission, cette nouvelle édition de l'émission Musica sur la City Pop japonaise. C'est la deuxième partie. Aujourd'hui encore, on va vous régaler. J'espère que vous avez bien enregistré la première émission, mais je peux vous dire que la deuxième émission sera au moins aussi prometteuse que la première. On va vous régaler avec du son des années 80 qui vient tout droit du Japon. Kyowa shiti popo tsuite anashite imasu. Vous allez vous régaler. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous mettre un premier son pour vous mettre bien. C'est un son qui est funky, c'est un son qui est groovy. C'est un son qui va donner un peu la tendance pour cette émission. Vous allez voir, franchement, je vous garantis à 90% que vous allez vous lever de votre chaise pour danser. Régalez-vous. La chanteuse s'appelle Henry. On est au milieu des années 80. Et franchement, just enjoy, guys. Tanushimu. Pour démarrer cette émission, que ce son de Henry, Remember Summer Days. Son vrai nom, c'est Eiko Kawashima, et elle a enregistrer son premier album seulement à l'âge de 17 ans à Los Angeles en 1978. Depuis les années 2000, elle vit à LA et on sent dans sa musique qu'elle est très influencée par toute la soul funk noire américaine des années 70-80. Elle représente un peu aussi cette nouvelle génération, cette relève de la city pop au milieu des années 80. On va dire la deuxième génération, hein, après les précurseurs qu'on a cités lors de la première émission. Là, on arrive sur une nouvelle génération qui a grandi avec les sons des aînés et qui a envie d'apporter aussi une sonorité nouvelle, une fraîcheur nouvelle. Henry, c'est un peu, à l'époque, c'était tout. Enfin, elle faisait rêver toutes les filles voulaient lui ressembler. Elle était considérée comme une fashion modèle, quoi. Tout le monde voulait s'habiller comme elle, vivre comme elle. Elle représentait un certain art de vivre du Japon des années 80. Voilà, son prénom, c'est Henry. Remember Summer Day, c'est le son qu'on a choisi pour vous. Et ça donne un peu le ton de cette émission, c'est le vent de fraîcheur de la city pop. On vous a parlé la dernière fois des précurseurs, des fondateurs. Là, au milieu des années 80, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a envie d'apporter quelque chose de nouveau, qui, bien évidemment, garde les bases et ce qui a fait le succès des morceaux de city pop de la fin des années 70, début 80. Mais là, ils viennent avec quelque chose de nouveau et ils veulent, franchement, je pense, à mon avis, conquérir un nouveau public, conquérir le monde avec cette musique. Aujourd'hui, on va justement vous parler de ça, de cette nouvelle génération de jeunes japonais au milieu des années 80 qui vont faire de la city pop leur hymne. Mais on va aussi vous parler pendant cette émission de comment la city pop a eu un impact fort sur la pop culture japonaise dans les années 80. Alors pour ça, on va vous parler aussi de tout ce qui est electronic device, donc tout ce qui a permis aussi la diffusion de la city pop, le Walkman, les car radio, donc les radios cassettes dans les voitures. On va vous parler également des spots commerciaux, donc les publicités. Et on va vous parler aussi de comment ça a influencé l'art avec les graphistes. Ça va parler à beaucoup de monde. Les dessins animés qui ont commencé à gagner en popularité dans le monde entier, les animés japonais au début des années 80. Donc voilà un peu le sommaire de cette émission. Encore un gros programme, franchement. Je ne vais même pas pouvoir vous passer tous les morceaux que je souhaite vous passer à l'antenne. Mais ce n'est pas grave, je vais essayer de vous passer le maximum de sons. On commence cette émission avec cette nouvelle génération qui va prendre le relais au milieu des années 80 et qui va essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Et pour continuer toujours sur le même thème, la même dynamique d'Henry, je vais vous faire passer un son d'une de mes chanteuses préférées, une des plus belles voix de la city pop, je pense. Elle s'appelle Junko Yagami. Le morceau, c'est Bay City, donc on est toujours sur ces morceaux-là qui donnent envie de prendre sa voiture, de chiller au bord de la plage. C'est le soleil qui parle dans ces musiques, quoi. Il y a plein de positivité dans cette chanson et j'espère vraiment, vraiment que vous kiffez. Là, je vais vous passer Junko Yagami, Bay City. Franchement, c'est un régal et on se reparle juste après.
Bye.
Junko Yagami. Ah, quel régal, franchement, un bon son funk. Franchement, Monkey Panda Music. C'est vraiment un son funky qui nous donne envie de bouger, qui donne envie de, voilà, de, d'avancer, d'aller de l'avant. Franchement, je dédicace ce son à, voilà, à tous les jeunes qui, comme moi, ont grandi avec la funk. Je pense notamment dans les quartiers populaires. Voilà, la funk, c'était vraiment quelque chose. C'était un peu l'hymne des quartiers pendant longtemps, bien devant le rap. Hein. C'est cette musique positive qui peut faire oublier un quotidien un peu plus compliqué. Donc franchement, c'est une musique qui donne la joie de vivre. Junko Yagami, on peut dire que pour moi, c'est l'une des plus belles voix de la city pop. C'est la deuxième génération de chanteuses et musiciens. City pop arrive au milieu des années 80, mais franchement, elle envoie du lourd. Et je pense qu'elle elle fait partie du panthéon des plus grandes chanteuses de city pop des années 80. Donc voilà, déjà une bonne introduction là, avec Henry, Junko Yagami. Franchement, là, c'est du bon son. J'espère que vous avez bien enregistré, que vous kiffez bien les morceaux. Je vais vous parler juste brièvement un peu de l'impact de la city pop sur le mode de vie au quotidien des Japonais. Dans les années 80, ce qui a permis une grande diffusion de la musique city pop, c'est également les devices, donc tout ce qui est appareil électronique, et notamment le Walkman. Walkman, qui est une marque, hein, qui est une création de Sony, à la fin des années 70, et qui a véritablement, je crois que c'était en 1979 exactement, mais qui a permis une diffusion de cette musique dans les rues de Tokyo. La city pop, c'est une musique urbaine. Hein, vous l'avez entendu dans les sonorités, franchement, c'est une musique voilà, qui est plutôt une musique de ville. Le Walkman va donner un support à cette musique et va permettre à plein de Tokyoïtes d'écouter cette musique city pop partout dans la rue. Et c'est aussi dans la culture un peu japonaise d'un respect de l'autre, c'est-à-dire de ne pas forcément partager la musique en public. L'avantage du Walkman, et c'est pour ça que le Walkman s'est vraiment développé dans le début des années 80 au Japon, c'est que ça a permis une écoute individuelle, dans le sens où, avec le Walkman, j'écoute ma musique, mais je ne dérange pas l'autre. Et ça, dans la culture japonaise, c'est très important. Et c'est ce qui va vraiment permettre voilà, un essor du Walkman qui s'est développé jusqu'à même chez nous, dans le courant des années 80, en Europe et en Amérique du Nord. Le Walkman, c'est vraiment une icône au Japon. Il y a même une statue qui a été érigée du Sports Walkman FN, donc une des premières versions du Walkman. Une statue dans le quartier de Ginza, pour ceux qui connaissent, qui est le quartier un peu fashion. C'est un peu le carré d'or de Tokyo. En 2019, voilà, pour le 40e anniversaire de la création du Walkman, une statue a été érigée pour représenter justement cet appareil. Donc voilà, le Walkman, c'est aussi voilà, montrer que la city pop s'inscrit dans la pop culture, s'inscrit dans la modernité, avec des supports qui permettent sa diffusion. C'est également vrai, là je vous parle de Walkman, mais je peux également vous parler de tout ce qui est radio cassette, car radio, donc tout ce qui est appareil de post-radio, voilà. Et dans les années 80, au début des années 80, les post-radios ne sont pas encore trop développés dans les voitures. Et avec la city pop, de nombreuses firmes japonaises vont... ça n'a pas été créé par des Japonais, je crois, les radiocassettes dans les voitures, mais de nombreuses sociétés japonaises comme Alpine Electronics ou Nakamichi Corporation vont créer des versions vraiment évoluées de radiocassettes voitures et vont permettre un développement. Donc en fait, ce qui fait que les gens, voilà, en plus d'écouter dans leur Walkman, ils vont également écouter dans leur voiture. Et vous sentez bien que ce type de musique-là dans la voiture, ça a quand même un effet hyper hyper positif. On a juste envie de prendre sa planche de surf et d'aller à la plage. Donc voilà, la city pop avec le Walkman et le radio cassette dans les voitures, vraiment ça va donner un boost en fait à la diffusion de cette musique. Dans la diffusion de cette musique, voilà, je vais vous passer un morceau maintenant qu'on aurait très bien pu franchement passer dans un radio cassette dans une voiture. C'est un son qui m'est bien. C'est un son de Tomoko Aran, c'est une des plus grandes chanteuses aussi de city pop des années 80. Elle a connu un regain de popularité un peu comme Maria Takeuchi dans les années 2010-2020 grâce à des algorithmes YouTube qui ont fait ressortir ses sons. Donc voilà, c'est une des icônes de la city pop. Et je vous passe un de ses morceaux tout de suite, I'm in love. Bien sûr, l'émission Musica, et on est sur cette deuxième partie de l'émission sur la City Pop japonaise. Japanese City Pop, just enjoy guys, vous avez du bon son pour vous accompagner pendant cette pause déjeuner. On est mardi, franchement le soleil brille, on se met bien avec de la bonne musique. Donc là, Tomoko Aran, oui, c'est une des figures de cette nouvelle génération qui va émerger au milieu des années 80. Franchement, elle a une voix qui vraiment se prête vraiment bien au style. Elle a fait partie d'un groupe après la fin des années 80 qui s'appelle Negisa No All Stars, et elle est considérée voilà, comme une des icônes de la city pop. Donc là, vous voyez, toute cette génération, en fait, hein, au milieu des années 80, on sent que le son évolue aussi. Hein, il devient beaucoup plus électronique, beaucoup plus technique. On sent qu'en termes de production, on se rapproche des standards américains, européens, anglais. Les productions sont de plus en plus professionnelles, les sons sont de plus en plus carrés. Et voilà, je ne dis pas qu'on est dans le mainstream, mais par rapport aux précurseurs, voilà, on sent que la city pop, au milieu des années 80, vraiment se professionnalise. Donc voilà pour ces trois artistes que je vous ai présentés. On va continuer tout de suite avec toujours cet impact de la city pop dans la pop culture. Et je vais vous parler maintenant des spots publicitaires, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui était très important dans les années 80. La publicité au Japon, voilà, les années 80, le Japon est en pleine effervescence. Si vous voulez, la publicité va être un vecteur et qui va justement pousser les gens à consommer plus. Comme support de cette publicité, les Japonais, si vous voulez, vont utiliser les musiques. Et parmi les musiques qu'ils vont utiliser pour développer les spots publicitaires, il y a bien évidemment la city pop. Je vais vous passer quelques spots publicitaires comme ça des années 80. Vous allez voir, je vais vous en passer trois, mais vous allez pouvoir sentir un peu l'influence de la musique city pop. Donc on est dans les années 80 et je vais vous montrer un peu comment la city pop a influencé même et a servi vraiment de support au merchandising, au publicitaire japonais.
Et デバイスって何なんですか？
デバイスっていうのはね、ゆいちゃん、ちょっと待ってね、顔洗ってから説明するから。
弾丸油落とし、カネボン、
デバイス
新登場。
カネボン for beautiful human life。
眉に初めてソフトなパープル、簡単で楽しいアイメイクです。
Et voilà pour les quelques spots publicitaires des années 80 au Japon avec cette chanson qui reste en tête. Meto mete tsuji au kasuka ni nananana. Meto mete tsuji au. Voilà, bon, je le fais pas très très bien, hein, désolé, mais voilà, c'est toutes ces musiques entêtantes des années 80 et de la city pop qui a influencé tous ces spots publicitaires japonais. On est vraiment dans le boom des années 80 au Japon. Société de consommation poussée à l'extrême. Et donc, du coup, bah voilà, la city pop est le support musical idéal pour pouvoir diffuser des messages publicitaires. Je vais vous parler de Minako Yoshida, qui a également été importante pour le développement de la city pop. Hein. C'est une des précurseurs. Crimo l'appelle d'ailleurs, qui est à mes côtés encore aujourd'hui, l'appelle la Barbara Streisand de la city pop. C'est vrai qu'elle a ce côté un peu Barbara Streisand. Mais là où elle est, là où son impact est important, c'est qu'au-delà du fait qu'elle fait partie un peu des précurseurs à la fin des années 70, hein, elle avait rencontré Haruomi Hosono au lycée dans le cadre d'une comédie musicale qui s'appelait Tokyo Kid Brothers. Et donc c'était là qu'ils s'étaient rencontrés et c'est lui qui l'a ensuite fait rentrer un peu dans le monde musical. Mais elle a surtout sorti un morceau qui s'appelle Thanks to You, qui a servi de support commercial à une publicité de Suntory dans les années 80. Et ce morceau et cette publicité a eu de nombreux prix, dont le prix d'argent au 33e festival du film publicitaire de Cannes. Donc ça, voilà, ça montre encore que voilà, les publicités japonaises des années 80 avec la city pop, elles étaient reconnues worldwide. Et d'ailleurs, je vais vous passer le morceau qui a servi de support à cette chanson. Je vais vous passer le morceau qui a servi de support à la publicité. Régalez-vous, ça s'appelle Thanks to You, c'est Minako Yoshida. Pour ce morceau de Minako Yoshida qui a servi dans la publicité de Suntory, qui a obtenu un prix au festival du film publicitaire de Cannes, le 33e. Et donc voilà, c'est pour vous montrer un peu l'impact que la city pop a eu. Elle a été utilisée dans de nombreuses publicités. C'est ce qui a permis à des marques comme Suntory. Hein. Suntory, ce sont les marques de boissons japonaises, notamment les sodas. C'est que Suntory a notamment racheté il y a quelques années, puis revendu, je crois, la marque Orangina. Qui était originaire d'Algérie. et de Boufarik exactement. Et donc voilà, c'est Suntory, qui est spécialisé dans les boissons et les sodas, a utilisé la City Pop dans une de ses publicités. Ça l'a rendu vraiment, vraiment célèbre. Voilà pour cette première partie. Donc cette première partie, l'objectif, c'était de vous montrer un peu tout cet élan, toute cette nouvelle jeunesse, comment elle s'est réappropriée la City Pop, et elle en a fait vraiment un hymne à cette jeunesse des années 80 au Japon. Vous montrer également l'impact de la City Pop dans la pop culture japonaise, notamment dans l'utilisation de certaines devices, de certains appareils électroniques comme les Walkman ou les Car Radio Cassettes, qui ont permis justement de la diffusion et qui ont servi de support à cette musique. Maintenant, on va entamer la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'impact sur la pop culture, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire dans l'art, le cinéma et la musique moderne. Tout d'abord, on va parler des animés, qui est quand même un élément important des années 80 au Japon. Et pour parler des animés, on a aujourd'hui un invité de marque qui s'appelle Nawir. Nawir, je le considère comme étant le spécialiste de la Japan culture à Marseille. Il a une connaissance très large de tout ce qui est animé, manga. Franchement, il est très, très impressionnant. Moi, je l'ai rencontré un jour dans le cadre d'une présentation du film Slam Dunk. Et franchement, j'étais assez épaté par ses connaissances. Donc on va l'appeler tout de suite. Il va intervenir en ligne. L'idée, c'est qu'il nous donne un peu sa vision de cette musique dans les années 80 et de son impact dans les animés. On l'appelle tout de suite.
Yes, Meji.
Yes, Nawir, on est en ligne. Salut, comment tu vas?
Tranquillou, et toi alors?
Ça va, ça fait plaisir de t'avoir en ligne. On a
merci
passé quelques...
Merci pour l'invitation.
Franchement, c'était... Pour moi, je ne pouvais pas faire une émission sur la City Pop et le Japon à Marseille sans t'appeler, quoi. Clairement, t'es pour moi...
merci.
Dans la présentation que j'ai faite juste avant, je t'ai considéré comme une des personnes sur Marseille qui connaît le mieux cette culture. Et donc voilà, on s'est rencontrés.
Non, la pression, là, tu me mets la pression.
Non, et donc voilà... Là où on voulait te faire intervenir, c'était bien évidemment, tu connais bien les animés, notamment dans les années 80. Et là où on voulait te faire intervenir, c'est avoir un peu ton témoignage sur comment la musique, en fait, et la musique et les films animés sont liés, et comment cette musique un peu funky, soul des années 80 a vraiment influencé et a aussi rendu populaire les animés qu'on connaît. On voulait avoir ton point de vue là-dessus.
Ben, comme tu l'as si bien dit, tu vois, bon, moi, j'ai 37 ans, je suis un enfant du club Dorothée. Et du coup, tu vois, par exemple, les mangas tels que City Hunter, Nicky Larson, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, où la musique est typiquement des années 80, tu vois, avec un style vraiment pop, comment te dire, je sais pas comment t'expliquer ce...
C'est la musique de l'époque, c'est-à-dire qu'en fait ils ont utilisé ce qui marchait bien au Japon dans les années 80, c'était cette musique un peu funky pop, quoi.
Et quand on écoute bien les musiques, moi je trouve qu'il y a pas mal de similarités avec des musiques américaines de la même époque. Il y a même des musiques, des chansons qui ont la même mélodie, tu vois, les mêmes tempos. Et généralement les mangas, si je prends toujours City Hunter, l'intrigue se déroule durant les années 80 et ça se prête bien, tu vois, à l'ambiance de l'époque. Et jusqu'à maintenant, moi, j'étais au Japon, là, au mois de janvier. Je suis resté 3 mois. Et j'étais surpris de voir que la musique des années 80 était encore présente, tu vois. Non pas avec des mangas de l'époque, mais même avec des mangas, comment dire, actuels. Et même, tu vois, des pubs dans les magasins, dans les transports ou autre. Il y a toujours des pubs sonores qui sont diffusées, et pas mal encore ces sonorités des années 80, assez pop.
C'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que le Japon est une société silencieuse, mais quand on marche dans les rues de Tokyo, il y a de la musique partout, on est d'accord, on rentre dans un combini, il y a de la musique, c'est vrai ce que tu dis.
Hallucinant, mais tu sais, moi j'ai été frappé par, là-bas à Tokyo il y a 22 millions de personnes, mais la foule, la masse n'est pas bruyante.
C'est ça.
Pourtant, comme tu l'as dit si bien, le son est partout. Quand tu vas traverser, de partout, il y a les feux rouges émettent des sons. Mais pour en revenir aux musiques des années 80, franchement, c'est de la pop. Je trouve que c'est très significatif et représentatif de l'époque.
Et toi, justement, ce qui est assez marquant, moi, à chaque fois, je suis assez bluffé, c'est à quel point, en fait, les gens réussissent à chanter et vraiment se mettre à fond dans les musiques en fait liées aux animés, tu vois, par exemple tous les génériques de City Hunter, même de Dragon Ball, de tous ces mangas des années 80, début des années 90, les gens vont dans les karaoké clubs pour chanter ces chansons là donc c'est à quel point l'impact est énorme, quoi.
Eh oui, et c'est toujours des musiques avec un tempo très très fort, après des paroles stimulantes, qui encourage, qui pousse, et sont très très forts pour les refrains, par exemple, tu vois. Donc ça reste des gimmicks, tu vois, par là.
Tout à fait.
Dragon Ball, Shala et Chala.
C'est vrai.
City Hunter, ça, par exemple, Footsteps in the Night, tu vois, voilà, ils ont mis le paquet vraiment dans les refrains.
Et aussi parce que je pense que les animés de l'époque, enfin, en tout cas pour les génériques, ils s'entouraient des meilleurs musiciens et des meilleurs chanteurs et chanteuses de l'époque. C'est-à-dire que,
mais
ils prenaient le truc au sérieux.
À fond, et comme tu le dis si bien, tu vois, ils font appel à des grands compositeurs d'époque et qui viennent composer pour les animes. Ce ne sont pas des musiciens, des chanteurs, des chanteuses qui vont faire ça spécialement pour des chanteurs d'animes, on va dire, mais ce sont des grands musiciens qui viennent composer exclusivement.
Bah, on le voit dans les films de Ghibli, hein, c'est Joe Hisaishi qui est l'un des plus grands compositeurs au monde, hein, on peut le dire, franchement, qui a composé quasiment toutes les musiques. Hein.
Il a composé aussi pour Kitano et d'autres grands. Et du coup, Isao Takahata, feu Isao Takahata, du cofondateur du studio Ghibli, c'est lui-même qui a présenté Joe Hisaishi à Miyazaki et qui est devenu son compositeur depuis 40 ans.
C'est ça.
Mais c'est les meilleurs qui composent les musiques, quoi.
Ouais, et puis parce que l'animé est pris au sérieux au Japon, contrairement en Europe ou en Occident, c'est vrai que le film d'animation est un peu, il a été pris au sérieux, on va dire, avec Disney, mais au-delà de ça, c'est vrai que les grands musiciens, on a peu de grands musiciens qui ont composé, à part sur des grands morceaux de Disney. On a eu des Whitney Houston, on a eu des Mariah Carey, etc. Mais c'est vrai que nous, ici en France, on a moins cette culture-là de dessins animés, quoi, en fait.
C'est vrai, comme tu le dis, hein, au Japon, c'est vraiment une institution, c'est culturel. Hein, c'est un secteur qui rapporte des milliards de yens. Et pour que ça cartonne, ils font appel aux meilleurs. Et on le voit très bien, ça marche.
Bah,
nous sommes le deuxième pays.
Avec des nouvelles. Oui, pardon, excuse-moi.
Non, sans prise.
Non, je disais, ça marche encore avec des franchises qui marchent bien, comme Spy Family en ce moment, qui tourne bien pour la nouvelle génération et d'autres.
Claire, Jujutsu Kaisen, tout ça, là, c'est. Non, mais ça. Maintenant, la France est deuxième pays consommateur de manga que le Japon. Et on voit même, tu sais, qu'à l'époque, en parlant de musique des années 80, c'était en 1999. J'avais acheté la bande originale de Slam Dunk à l'Entretus Nord Bleu. Je l'avais payé 99 francs. Tu vois, c'était vraiment, je l'avais.
C'était quelque chose, 99 francs à l'époque, c'était quelque chose.
C'était quelque chose, maintenant c'est l'équivalent de 15 euros. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette manie d'écouter des musiques japonaises. Je me rappelle, mes camarades se moquaient un peu de moi en mode qu'est-ce que tu écoutes ça ? Tu comprends que dalle. Mais j'étais déjà pris, tu vois, par ces groupes, Zad, Bad, c'était un truc de fou.
Ouais,
j'écoutais ça, et maintenant, la musique japonaise, la K-pop, la J-pop, ça, tout le monde en écoute.
C'est clair.
Avant, nous étions que quelques petits renégats, tu vois. Maria écoutait ça, mais maintenant, ça s'est démocratisé à fond, quoi.
C'est ça, mais je comprends tout à fait ton feeling. Et moi, c'était un peu la même chose aussi avec le rap, que je sais que je pense que tu écoutes. Au début, le rap, il n'y en a pas beaucoup qui écoutaient le rap. Enfin, quand je parle du rap, c'est le rap américain, etc.
Clair.
Et ça s'est développé. Maintenant, tout le monde écoute du rap. C'est la première musique écoutée en France. Donc, c'est vrai que tout ça évolue. Mais toi, justement, par rapport à la culture japonaise à Marseille, comment ça a évolué sur les 20 dernières années, toi qui as vraiment l'historique? Est-ce que les gens ont commencé à s'intéresser plus à cette culture-là?
Vraiment, culture japonaise, manga. Comme je te dis, en 98, la boutique L'Entrée du Snorgleu, qui est à la rue Moustier, avait ouvert.
Très belle boutique.
Et très très belle boutique, et nous étions pas beaucoup, vraiment, tu vois, le manga ne se vendait pas. Il n'y avait que quelques initiés, tu vois, qui s'y intéressaient. Il y avait également le magasin Ayato sur la rue de la Palue. Ils vendaient des jeux vidéo, de la PlayStation 1. Ils faisaient même, comment on appelle là, tu payais 100 francs, ils te mettaient une puce sur ta PlayStation 1 pour que tu puisses lire les jeux japonais.
Ouais, je comprends.
Tu vois. Et maintenant, voilà, ça s'est pas mal démocratisé avec l'avènement d'Internet. Depuis, on va dire, le confinement, Netflix qui achète, qui met des animes, qui produit maintenant des animes. T'as des restaurants japonais et de ce fait, maintenant la culture s'est pas mal démocratisée. Ouais, pas mal vrai. De personnes apprennent le japonais.
C'est vrai.
Il y a des licences japonais à la fac.
C'est vrai.
Ou à l'époque, on était là, on essayait d'apprendre les hiragana, katagana, vraiment en mode pirate. Mais maintenant, voilà. Ça y est.
C'est vrai que ça a bien évolué et c'est super qu'on ait ton témoignage sur Radio Galère parce que voilà, nous on parle de City Pop, la City Pop c'est des années 80, ce qu'on dit c'est que depuis 10 ans la City Pop connaît une nouvelle renaissance.
Ah ouais.
Et en fait ce que tu dis là, ça s'inscrit parfaitement là-dedans en fait, c'est les gens s'intéressent ouais. à ça parce qu'ils ont les moyens de s'y intéresser maintenant avec le streaming, Netflix et voilà, tout ça est accessible.
Ce qui fait plaisir aussi c'est que maintenant c'est plus que des jeunes qui lisent des mangas, il y a de tout âge, de toute catégorie sociale. Il y a de toutes. C'est tout le monde lit du manga maintenant en France. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Et quand j'ai vu au Japon, j'étais encore plus sidéré dans les boutiques parce que moi j'ai fait 40 000 book-offs, 40 000 mandarakés pour chercher des bijoux. Et tout le monde lit du manga là-bas.
Book-off est arrivé à Paris, il paraît. Franchement, j'ai pas encore été voir, mais apparemment, il y a trois boutiques qui ont ouvert.
J'ai entendu aussi.
Donc, je pense que je vais aller faire un petit tour parce que moi, ce que j'aime bien dans les book-off, c'est d'acheter les séries carrément, quoi. C'est-à-dire que ils arrivent, ouais, t'achètes une série de 10 mangas directement et à prix d'or.
C'est clair.
Donc franchement, non. Bon bah écoute, c'est franchement cool, Nawilson. Arigato, gozaimasu. Franchement, c'était super d'avoir ton témoignage.
Et si je peux conseiller une BO, vraiment, City Hunter. On n'a pas l'impression d'écouter des musiques d'un dessin animé.
Ah bah c'est justement ce qu'on va passer là à l'antenne. On va passer un son de City Hunter qui va dire le son mainstream. Je sais que tu as plein de sons à me proposer sur City Hunter. Là, on va passer le son le plus mainstream. C'est Ayo Kenaide. Donc voilà, c'est le son, on va dire,
C'est un classique.
Il faut que les auditeurs l'écoutent.
Il faut commencer par là.
Et bah écoute, ça m'a fait super plaisir. T'es le bienvenu quand tu veux dans l'émission, Nawilson. Et je te dis, passe une bonne soirée, compte banois, porte-toi bien.
Merci à
et
vous.
Puis à très
Merci.
Bientôt dans l'émission, j'espère.
Et bisous à toute l'équipe.
Allez, ça marche, c'est cool. À bientôt, ciao,
Merci.
Ciao. Oui, salut, ciao, ciao.
Bisous, ciao.
Ah, c'était super cool d'avoir Nawir à l'antenne. Franchement, c'est quelqu'un qui suit la musique pop des années 70, des années 80 du Japon à Marseille depuis longtemps. Les mangas, il a une bonne connaissance. Franchement, ça fait super plaisir. Je suis super honoré de l'avoir eu à l'antenne. Encore merci à lui, force à lui. Et là, on va enchaîner tout de suite. On va enchaîner avec City Hunter Aino Kienaide. C'est un des morceaux phares de City Hunter. City Hunter, c'est l'histoire d'un détective dans le quartier de Shinjuku, qui est un peu le quartier des mafieux avec Kabukicho, qui est un des quartiers de Shinjuku. Et donc voilà, City Hunter, franchement, c'est drôle, c'est fun. C'est les années 80-90. Pour moi, City Hunter, en France, c'est Nicky Larson, pour ceux qui suivent uniquement la version française. Mais franchement, c'est une de mes séries préférées. On se régale et c'est parfaitement représentatif de l'ambiance de Tokyo, de Shinjuku des années 80. Allez, on vous passe un morceau tout de suite. C'est Ayo Kenaide.
Oh,
Hontoni Sutekides. Oh, c'est quel régal. Very nice music. On se régale. Franchement, cette BO est l'une de mes préférées. Franchement, bon, tout ce qui est animé. Cette chanson de City Hunter, franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est un rythme entraînant, comme l'a très bien dit Nawir tout à l'heure. C'est, voilà, les refrains, ils restent en tête. Hein, on continue à chanter la chanson bien après. Et donc voilà, donc les animés, la City Pop, les deux sont connectés, on le voit bien. On va continuer avec un deuxième morceau de... C'est de la City Pop, oui, on va dire c'est de la City Pop un peu édulcorée, un peu mainstream, mais c'est de la City Pop quand même, de l'une des artistes les plus importantes de la City Pop. On n'en a pas encore parlé, mais on ne peut pas parler de tous les artistes. Elle s'appelle Yumi Arai. Elle a beaucoup participé à des BO d'animés, dont l'un des plus connus, c'est la BO de Kiki, La Petite Sorcière, un film des studios Ghibli. On est dans les années 80. Bon, les studios Ghibli, on ne présente pas. Hein, Mon Voisin Totoro, Nausicaa, Un Château dans le Ciel, etc. Vous connaissez tous ces classiques. Miyazaki, il a utilisé à la fois des musiciens classiques, hein, comme Joe Hisaishi, on en a parlé tout à l'heure avec Nawir, mais également la City Pop. Hein, il voulait quand même vivre avec son temps dans les années 80. Et là, je vais vous passer le morceau de Yumi Arai, un des génériques de Kiki, La Petite Sorcière. Donc, franchement, c'est un morceau que j'apprécie, qui s'appelle Rouge no Dengon. Et franchement, c'est un morceau qui passe bien. Je vais vous le mettre tout de suite, vous allez vous régaler. Et donc voilà, la City Pop dans les animés, on est dans les années 80. La Petite Sorcière, Yumi Arai. Je profite de ce morceau pour rendre un hommage à un géant qui nous a quitté il y a quelques jours. Il s'appelle Akira Toriyama. C'est le fondateur de Dragon Ball. Il a également été créateur de Dr. Slump. Moi, j'aime beaucoup Dr. Slump. Voilà, Akira Toriyama, franchement, on te rend hommage sur ces deux morceaux. T'as apporté tellement. Et voilà, c'est un vide que tu laisses. C'était franchement jeune, 68 ans, il nous a quittés. Mais son impact dans la culture manga et la culture nippone et la culture mondiale, en fait, est vraiment énorme. C'est tribute to him, it's one of the best mangaka all time. C'est l'un des meilleurs depuis tous les temps. Donc voilà, par ces deux morceaux de City Pop inspirés d'anime, voilà, on tenait à lui rendre hommage aujourd'hui. On continue. Voilà pour cet impact sur les animés. On va vous parler également aussi de l'impact dans l'art, je dirais des artworks, donc tout ce qui est art graphique, peinture. Et je vais vous parler de Hiroshi Nagai. Hiroshi Nagai, c'est un graphic designer et illustrateur des années 80. Et c'est notamment lui qui a illustré la plupart des pochettes d'albums de City Pop à la fin des années 70 et dans les années 80. Donc c'est vraiment une inspiration très pop art. Hein. Je vous invite tous à aller découvrir son œuvre sur Internet. Il s'appelle Hiroshi Nagai. Donc vous verrez que son œuvre est très inspirée de l'œuvre de David Hockney, hein, parce qu'il a en fait vécu aux États-Unis au milieu des années 70. Il en est revenu un peu avec toute la période de David Hockney californienne dont il s'est inspiré. Et donc je vous invite à taper son nom sur internet et d'aller voir les pochettes d'albums qu'il a pu faire pour plein d'artistes City Pop. Et voilà, donc pour montrer que la City Pop est présente dans les animés, mais également dans les artworks, dans tout ce qui est graphique, dans l'art. Et voilà, ça a englobé finalement plein de sujets différents. On continue sans transition pour la dernière partie de l'émission. Malheureusement, vous êtes toujours sur Radio Musica, l'émission aujourd'hui consacrée à la partie 2 de la City Pop. On continue et j'ai envie de vous montrer sur cette dernière partie quel est aujourd'hui l'héritage de la City Pop. So, today's legacy of City Pop. Et pour vous parler de ça, je vais déjà commencer par un rappeur qui s'appelle Tyler, The Creator, qui a utilisé un son de Tatsuro Yamashita dans un de ses albums. Donc tout d'abord, on va commencer par le petit son de Tatsuro Yamashita qui s'appelle Fragile. Et ensuite, je vais vous passer le son de Tyler, The Creator, qui a samplé ce son Fragile. C'est un son qui est sorti en 2019 dans son album, dans l'album de Tyler, The Creator. Donc là, on va commencer tout de suite par Tatsuro Yamashita, Fragile. Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Girl, please don't ever let me be alone again. Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Girl, please don't ever let me be alone. Voilà pour le morceau de Tatsuro Yamashita. Et maintenant, je vais vous passer le morceau de Tyler, The Creator, donc, qui a utilisé ce sample dans un morceau qui s'appelle Thank You. Donc, je vais vous le passer tout de suite, hein, juste le temps que Tyler, The Creator, qui est un de mes chanteurs préférés au niveau rap, c'est quelqu'un de très talentueux. Il réussit à utiliser des influences d'un peu partout. Donc voilà, là, je vais juste retrouver le morceau, le moment. Donc, je crois que c'est à peu près à ce niveau-là. Et c'est parti. Ce morceau, ce sample utilisé par Tyler, The Creator, franchement, voilà, pour vous montrer que la City Pop et les artistes City Pop des années 80 comme Tatsuro Yamashita ont également influencé des artistes modernes américains comme Tyler, The Creator, qui a utilisé ces samples dans des morceaux qui sont récents. On est en 2019 lorsqu'il sort ce morceau Thank You. On va continuer toujours sur cet héritage de la City Pop moderne. Là, je vais vous parler, il y a pas mal de nouveaux artistes japonais, hein, qui s'inscrivent dans la continuité de la City Pop des années 80 et qui la remettent un peu au goût du jour aujourd'hui. Mais parmi tous les artistes que je pouvais trouver, il y en a un que j'ai voulu choisir pour vous aujourd'hui. Il s'appelle Nullbarish. Donc c'est un artiste japonais qui a commencé à être reconnu à partir des années 2016-2017, que moi j'ai connu dans une salle de concert à Tokyo qui s'appelle Liquid Room. Je vous conseille à tous d'y aller. C'est dans le quartier de Daikanyama, près de Shibuya. Franchement, il passe que de la bonne musique. Et pour découvrir de nouveaux artistes japonais, c'est vraiment the place to be. Et donc là, je vais vous passer un de ces morceaux. Je pense que voilà, c'est celui qui est le plus représentatif de cette nouvelle génération d'artistes qui cherchent à apporter quelque chose de nouveau dans la city pop. Donc là, je suis en train de chercher son morceau. Nul Barish, on va l'écouter tout de suite. Et New Era, c'est vraiment un morceau qui, je crois, sorti en 2020, mais qui représente bien cet héritage de la city pop. Et voilà, même en 2020, au Japon, des artistes continuent à perpétrer cette musique et ce style sous de nouvelles formes, bien évidemment, pour le moderniser. On écoute tout de suite Nul Barish, New Era.
Good morning to the sun. Let's go for a walk. 気ままに空気吹かせへまた地の上で
Très cool à écouter Nul Barish, je vous invite tous à écouter sa musique, c'était New Era, voilà, c'est la nouvelle génération city pop qui prend les devants et qui dit voilà, nous aussi on veut du groove, on veut de la funk, et voilà, la pop japonaise elle va continuer à se développer comme ça sur ses bases de la city pop des années 80. J'espère que franchement on arrive à la fin de l'émission, malheureusement j'espère que j'ai pas pu vous passer tous les morceaux que je souhaitais, mais j'espère que voilà, vous avez passé du bon temps. You just enjoy guys, enjoyed with us. It was a real pleasure for me to be with you. Franchement, moi, c'était vraiment un vrai plaisir d'être là avec vous. J'espère que vraiment, voilà, vous vous êtes régalés. Je sais qu'on nous écoute d'un peu partout. Franchement, big up à tous. Moi, tout ce que je voulais, voilà, avec ces deux émissions, c'était de partager avec vous la city pop, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de très riche, très très joyeux. Et franchement, moi, quand j'ai découvert ça, depuis, j'écoute régulièrement la city pop. Je n'écoute pas que de la city pop, bien évidemment, mais dans ma playlist, voilà, les morceaux de city pop ont quand même une place de choix, et franchement j'ai toujours le même plaisir à les réécouter. Voilà, pendant la première émission on vous a parlé un peu des fondations, du démarrage. Là, dans la deuxième émission, vous voyez, on vous parle un peu aussi de l'évolution, la nouvelle génération, l'impact sur la pop culture. Donc vous voyez, la city pop continue de vivre et continuera de vivre encore longtemps, je pense. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais rendre hommage pour cette émission à un artiste japonais que j'affectionne particulièrement. C'est un artiste qui s'appelle Nujabes. Nujabes, pour en fait, qui est la lecture de son prénom à l'envers. En fait, c'est Seba Jun. C'est un artiste qui nous a quitté malheureusement trop tôt en 2010 d'un accident de la route à l'âge de 36 ans sur une route du centre de Tokyo. Mais c'est voilà un artiste pour moi qui l'artiste soul jazz. Hip-hop, un des artistes les plus importants du début des années 2000. Je sais qu'il s'est beaucoup inspiré de la city-pop parce qu'il avait lui-même un record shop qui s'appelle Guinness Records à Shibuya. Et donc du coup, il écoutait de la city pop, et cette city pop là a vraiment influencé la musique qu'il a fait ensuite. Il a créé un nouveau genre, il a créé le genre lofi, et c'est grâce à ce genre lofi qu'il a créé dans les années 2000 qu'en fait les algorithmes YouTube ont fait ressortir derrière des sons de city pop et qui ont permis les essors de Maria Takeuchi, de Tomoko Aran, etc. Donc on doit beaucoup à Nujabes, et moi je souhaitais terminer l'émission en deux parties sur la city pop japonaise par Nujabes, parce que c'est un artiste que j'affectionne énormément. Un jour on m'a dit, voilà, c'est la première fois que t'écoutes Nujabes, et on m'a dit, félicitations, welcome to a new world, bienvenue dans un nouveau monde, parce que quand tu découvres Nujabes pour la première fois, tu rentres dans un nouveau monde, et voilà, ce monde, j'espère faire entrer de nombreuses personnes également avec moi dans cette aventure musicale. Je vais vous passer un morceau de Nujabes, franchement très très compliqué de choisir quel morceau de vous passer. C'est le morceau qui va clôturer l'émission. Malheureusement, mais on se retrouve dans deux semaines, toujours pareil pour Musica sur Radio Galère. Dans deux semaines, on va vous parler de musique algérienne, car le mois d'avril sera consacré à la musique algérienne. On va vous parler de raï music et de plein d'autres musiques citadines du nord de l'Algérie, principalement Alger et Oran. Franchement, vous allez voir, vous allez vous régaler. Pareil, ce sera une émission en deux parties. Et donc, j'en profite également pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans worldwide, from Japan to US. Bon ramadan à vous. Peace and love in this world. On va finir par ce son de Nujabes qui s'appelle Reflection Eternal. Et moi, je vous dis à dans deux semaines. Franchement, un peu nostalgique à l'idée de dire de finir ces deux émissions sur la city pop japonaise. Mais franchement, je me suis régalé. C'était vraiment cool d'être à vos côtés. Et j'espère vous retrouver dans deux semaines pour de nouvelles aventures musicales ensemble sur Radio Galère avec l'émission Musica. On est parti pour Nujabes. Ciao, ciao à tous. Bon après-midi. Just enjoy. Sayonara.